Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Institution phare de la finance islamique, la banque sans intérêt fascine tout autant qu'elle intrigue. Elle a été théorisée dans les années 70 par l'Irakien Mohamed Bakir al-Sadr dans un ouvrage qui est enfin disponible dans les milieux académiques non arabes. Ce texte est motivé par l'exigence d'un compromis de civilisation. Il assume la pratique coutumière et les conditions imposées par le système bancaire conventionnel, ainsi que la stricte discipline du fir musulman. Au menu de la revue de presse régionale, la crise du Qatar et la question de l'électricité à Gaza, nous retrouverons Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Julien Pélissier.
Bonjour monsieur.
Chercheur et traducteur, auteur d'une thèse sur le penseur irakien Mohamed Bakir al-Sadr, qui a été assassiné en 1980 par le régime bassiste, en Irak donc, et dont vous avez traduit l'ouvrage de référence « La banque sans intérêt en islam ». Alors, avant de parler de la banque, dites-nous qui était Mohamed Bakir al-Sadr et dans quel contexte il a écrit cet ouvrage.
Eh bien, Mohamed Bakir al-Sadr, Éric Bataillon, était un auteur irakien de la seconde moitié du XXe siècle qui a été éduqué à la Hawza de Najaf. Il a cette particularité d'être à la fois un jurisconsulte, c'est très important, et un penseur des sciences sociales qui a essayé de relever le défi de la modernité. Et enfin, il a écrit deux ouvrages importants pour l'économie islamique et la finance islamique, qui sont « Notre économie » et « La banque sans intérêt en islam », que j'ai donc traduit en français depuis l'arabe.
Ce sont des ouvrages qui ont été écrits dans les années 50, 60, 70, c'est cela ?
En effet, « Notre économie » a été écrit en 1962 et « La banque sans intérêt » vers 1967.
C'est une période où, en Irak, il y a des penseurs qui émergent.
Oui, tout à fait. C'est une période intéressante parce que dans de nombreux pays, des penseurs émergent issus du courant du revivalisme islamique pour proposer une offre alternative à ce qui était à cette époque le marteau et l'enclume intellectuel, si vous voulez, du capitalisme et du communisme.
Alors, en quoi consiste la banque sans intérêt ? Comment ça marche ?
La banque sans intérêt, dans le modèle d'intermédiation que propose Sadr, est en fait un modèle d'intermédiation bancaire entre des déposants et des entrepreneurs sur la base d'un contrat qui est la mudaraba, la commandite, et qui consiste en fait à concurrencer le modèle de la banque usuraire et donc à aussi être profitable. Ce n'est pas un modèle évergétique ou de bienfaisance.
Alors, vous avez parlé de la mudaraba, autrement dit la commandite. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ?
La commandite, c'est un contrat qui existe dans le droit musulman et qui a été utilisé dans l'histoire économique islamique pour financer des opérations commerciales, notamment au Moyen-Âge. Mais ça a été repris par le mouvement de la finance islamique et cela consiste à rassembler des déposants qui ont des capitaux oisifs, ainsi que les entrepreneurs qui, eux, portent un projet et veulent le financer. La banque intervient en tant qu'intermédiaire pour rassembler dans une relation tripartite ces trois intervenants que sont donc le déposant, la banque et l'entrepreneur.
C'est une pratique qui était utilisée avant puisque les marchands juifs utilisaient déjà avant l'avènement de l'islam cette technique finalement.
Tout à fait, c'est une technique ancienne qui est utilisée par les marchands juifs non seulement mais tous les autres, à Venise également, donc il y avait certainement de nombreux marchands chrétiens et d'autres religions qui utilisaient cette commandite en effet.
Alors à côté de la mudaraba dont on vient de parler, il y a, c'est assez proche, la murabaha et là c'est la banque finalement qui se substitue à l'acheteur.
En effet, la murabaha ou achat-vente échelonné est en fait un contrat à marge fixe, c'est-à-dire selon la terminologie anglo-saxonne un markup contract, et donc ce n'est pas basé sur le partage du profit et des pertes, et cela finance une opération commerciale ponctuelle. La banque achète un bien dont elle retient la propriété pour ensuite le transmettre à l'acheteur réel de ce bien suite au paiement complet des échelonnements financiers.
Alors finalement, cela revient à, par rapport à un crédit bancaire classique, on va dire, l'artifice revient à remplacer l'intérêt par un petit profit, c'est cela?
Dans la Mourabaha, en effet, l'intérêt dans un contrat de prêt est remplacé par un artifice, mais si vous voulez, il y a des implications au niveau du risque et au niveau légal. Hein, quand un contrat de prêt, ce n'est pas un contrat d'achat-vente. Mais c'est effectivement, sur le principe, ça ressemble à de l'intérêt. Donc c'est une marge fixe qui est fixé au préalable, contractuellement, entre le financeur et le financé.
Et alors, dans ce cadre-là, qui se charge de la garantie des dépôts?
Alors, dans le cadre du modèle de SAD, en effet, il le concède lui-même. La banque sans intérêt doit garantir les dépôts parce que il y a ce risque lié à l'activité commerciale et industrielle, hein, selon SAD, c'est pas seulement commercial, et industrielle financée. Et donc, une possibilité de perte, à la fois une perte sur le capital principal prêté et sur le profit annoncé. Et donc la garantie des dépôts est assurée par la banque elle-même, mais je souligne ici que c'est une tendance générale, en particulier depuis la fin des années 90 et même dans les pays occidentaux, donc qui fonctionnent selon évidemment le principe de l'intérêt, cette garantie des dépôts s'est généralisée.
Et on suppose qu'elle doit avoir un capital plus important que dans une banque classique, hein, puisqu'elle apporte, elle, du capital.
En effet, donc dans la banque sans intérêt, l'exigence de capitaux propre est plus élevée. Pourquoi ? Parce que elle doit elle-même garantir les dépôts. Si elle le veut, elle peut également garantir la quote-part de profit qu'elle a annoncée aux déposants. Et en plus, puisque le risque est partagé entre financeur et financé, eh bien ce risque-là doit être également prise en compte dans le modèle économique, ce qui exige en effet un niveau de capitaux propres plus élevé.
Alors Julien Pellissier, dans la seconde partie de votre livre, vous étudiez le fonctionnement de la banque sans intérêt. Est-il le même que pour une banque classique? Et puis sinon, quelles sont les différences essentielles?
Alors il y a des points communs et bien sûr des points de distinction. Les points communs, c'est le modèle général d'intermédiation financière dans un cadre de réserve fractionnaire, hein, le cadre d'une économie monétaire de réserve fractionnaire. Et donc, en effet, la banque intervient en tant que mandataire du déposant pour allouer le capital de manière optimum entre les différents projets d'investissement qui s'offrent à elle. Donc c'est un point commun. Du côté de la distinction, évidemment, c'est encore une fois le partage du risque entre financé et financeur, puisque le financé, c'est-à-dire le déposant ici, n'est pas assuré de récupérer complètement son capital, ni d'ailleurs la quote-part de profit qui lui ont été annoncés, si ce n'est la garantie que lui est donnée par la banque elle-même. Par conséquent, il y a ici un mécanisme d'ajustement, si vous voulez, si on prend ça d'un point de vue plutôt macroéconomique, sur le marché financier. Il y a un mécanisme d'ajustement qui s'effectue. Et puis, autre différence, les financements doivent s'appuyer sur un actif réel. Également, la thésaurisation et la spéculation, notamment sur les marchés dérivés et tout ce qui est échange de titres de dette, sont fortement inhibés, ce qui permet d'éviter des phénomènes de bulles que l'on voit malheureusement trop souvent émerger aujourd'hui.
Est-ce que les banques fonctionnent comme cela dans les pays à majorité musulmane aujourd'hui?
Alors, voilà bien le débat. On constate que la Mudaraba, et donc le modèle proposé par Sadr, n'est pas utilisé à la hauteur de ce qu'on pourrait en attendre. Et l'une des critiques, peut-être légitime d'ailleurs, que l'on adresse aux banques qui se trouvent dans les différents pays islamiques, que ce soit les pays du Golfe, la Malaisie, ou le Pakistan et l'Iran, qui ont un système islamisé, je le rappelle, par la loi. Ces systèmes-là et ces banques-là n'utilisent pas la Mudaraba et dans leur portefeuille de crédit, la Mudaraba joue un rôle limité. Et par conséquent, on en revient à des contrats à marge fixe, donc des markup contracts, qui sont très proches des modèles et des schémas d'investissement usuraire financier traditionnels.
Pour quelle raison la banque sans intérêt ne fait pas tache d'huile, si je puis dire, parlant de régions où le pétrole est abondant?
Je pense qu'il y a énormément de raisons et il est très difficile de donner une raison en particulier. Mais en effet, il faut reconnaître que la concurrence est très dure et que cette banque qui doit émerger avec un nouveau modèle, On l'a rappelé, l'exigence de capitaux propres est très élevée. Il y a probablement également des appels d'air en termes d'investissement alternatif, c'est-à-dire que ces capitaux sont peut-être mieux utilisés du point de vue de l'investisseur dans un autre mode d'investissement que la banque basée sur la Mudaraba. Et donc la concurrence est très dure et il y a une tendance, évidemment, à s'aligner par mimétisme, par émulation. N'oublions pas que la plupart des systèmes bancaires dans le monde musulman sont avant tout conventionnels, c'est-à-dire basés sur l'intérêt, et que le marché bancaire islamique reste un marché de niche.
Finalement, cette banque sans intérêt que vous décrivez, est-ce un compromis entre la tradition religieuse et les nécessités du monde moderne? Et justement, sa composante traditionnelle religieuse, c'est peut-être le bas qui blesse pour qu'elle se développe.
En effet, c'est un marché de niche, mais c'est la réponse à un défi, je dirais presque civilisationnel du monde musulman. Nous avons rappelé que la Mudaraba était utilisée au Moyen-Âge et bien sûr il y avait des modes de financement islamiques traditionnels tout au long de l'histoire du monde musulman. Parlons bien sûr des grands bazari par exemple en Perse ou la mode des familles Karimi en Égypte Fatimide, ces grands financiers, ces grands négociants qui à la limite entre le négociant et le banquier. Il y a cette tradition. Mais en effet, on constate un vide ou une parenthèse, notamment au moment de la colonisation et, il faut le dire, de la post-colonisation, qui n'a pas été remplie. C'est en effet, à mon sens, l'un des défis que doit relever le monde musulman pour les musulmans d'entre eux qui sont attachés à la conformité à la charia, en effet.
Merci Julien Pellissier.
Je vous remercie Eric Bataillon.
Chercheur et traducteur, spécialiste de Mohamed Bakr al-Sadr, dont vous avez traduit pour la première fois en français l'ouvrage phare de la finance islamique, La banque sans intérêt en islam, écrit en 1972.
تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب أنت الهوى أنت ملء الأماني حياتي أنت فداك أنت دنيا الغد الأحلام الغد والقبل وكل الأمان تعال نجد المنى والغرام كفنا البعد غيام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite et ses alliés fait toujours la une de la plupart des journaux arabes.
La presse du Golfe et égyptienne poursuit son offensive contre le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme islamiste par les armes, l'argent et la propagande médiatique. Les journaux continuent à publier ce qu'ils affirment être des preuves de l'implication du Qatar dans le soutien du terrorisme au Yémen, en Libye et même en Somalie. Mais c'est le rôle du Qatar en Syrie qui est le plus montré du doigt. Un éditorialiste va jusqu'à accuser le Qatar d'occuper une partie de la Syrie via les mouvements extrémistes comme l'État islamique et Al-Qaïda. Une occupation comparée à celle du Golan par Israël. Mais les journaux favorables au Qatar affirment au contraire que Doha participe à la libération de la Syrie des mains du groupe État islamique et de la dictature de Bachar el-Assad. Dictature dont ils accusent aussi les régimes d'Arabie, des Émirats, de Bahreïn et d'Égypte.
Une retombée indirecte de cette crise du Qatar, Alexandre, c'est un début de tension entre le Maroc et le clan saoudien.
Selon plusieurs analystes, l'Arabie et ses alliés n'ont pas apprécié la position du Maroc dans cette crise, et notamment le fait que Rabat ait envoyé un avion chargé de vivres au Qatar sous embargo. Résultat, les médias du Golfe ont découvert la question du Sahara occidental et le front Polisario qu'ils ont commencé à traiter en long et en large. Certains médias sont allés jusqu'à parler d'occupation marocaine de la République sahraoui. Une couverture qui n'a évidemment pas été appréciée par les médias marocains qui parlent de provocation propagandiste. Des tensions avaient déjà commencé entre Rabat et le Caire bien avant la crise qatarienne, à la suite de l'invitation par l'Égypte d'une délégation sahraoui dans le cadre d'une conférence internationale.
Michel, le cabinet israélien a décidé de réduire la fourniture d'électricité à la bande de Gaza.
Oui, une décision qui fait couler beaucoup d'encre dans la presse israélienne et qui, selon plusieurs commentateurs, fait craindre de nouvelles tensions entre Israël et Gaza. Certains de ces commentateurs parlent même de nouveaux affrontements armés pendant l'été. Haute tension, titre Yediot Acharonot, avec un jeu de mots d'un goût douteux. La situation des habitants de Gaza va encore empirer, souligne le journal. Selon Israel Hayom, le journal proche du pouvoir en Israël, le Hamas est sous pression sur plusieurs fronts à la fois et risque de provoquer l'explosion. Israël, conclut le journal, est face à un dilemme, poursuivre cette pression ou alors au contraire procéder à des allègements. Et puis Eric, dans l'édition de Mariv de ce week-end, on trouve ce titre à retenir. Le journal parle d'une rencontre secrète entre le Hezbollah et le Hamas. Le but, indique le journal, augmenter l'influence de l'organisation chiite libanaise dans le territoire palestinien.
Et puis toujours, Michel, plein feu dans la presse sur Benjamin Netanyahou.
Et oui, c'est le sujet qui occupe la première page du quotidien Haaretz. Les enquêtes autour du Premier ministre israélien, selon le journal, renforcement des soupçons selon lesquels Netanyahou aurait agi en faveur d'un milliardaire qui, en retour, aurait financé le Premier ministre israélien. La police aurait décidé d'ouvrir une enquête, mais le procureur général a bloqué ce processus. Bref, Eric, selon Haaretz, le comportement du procureur général serait proche d'une entrave à la justice. Et il est aussi question du prédécesseur de M. Netanyahou, Ehud Olmert, qui, vous le savez, est en prison pour malversation. Alors, des documents secrets auraient été découverts dans sa cellule de prison.
Ce qui fait désordre. Alexandre, plusieurs journaux dressent dans leurs pages sportives des portraits très flatteurs de Zinedine Zidane.
Les journaux saluent l'entraîneur victorieux du Real de Madrid qui a su sortir l'équipe de sa mauvaise passe et remporter championnat sur championnat malgré le scepticisme qui avait accueilli sa nomination comme coach. Des journaux qui ne manquent pas non plus d'évoquer Zizou, le joueur qui a tout gagné avec la Juventus, le Real et l'équipe de France. Les origines arabes de Zinedine Zidane ont évidemment été mises en avant. Les articles raquant dans le détail le départ de son père de Kabylie pour la France, puis la naissance de Zinedine et son enfance à Marseille. Un critique sportif conclut que grâce à Zidane, la plupart des Arabes sont devenus des supporters du Real Madrid, alors qu'ils étaient jusque-là des fans du Barça et de la Juventus.
Michel, d'autres sujets également à retenir dans vos journaux?
Oui, Israël veut fermer le bureau local de la chaîne de télévision Al Jazeera. Selon Yediot Acharonot, Netanyahou a donné des instructions pour que la question soit examinée. La presse souligne que dans le passé, une démarche semblable n'avait pas abouti. Dans les journaux aussi, des détails sur les premières grandes manœuvres de l'armée israélienne à Chypre. Les commandos israéliens ont pris d'assaut des positions dont la situation géographique ressemble à s'y méprendre à celle de pays voisins d'Israël. Et puis autre sujet qui fait beaucoup de bruit, le code éthique pour les universités que le ministre de l'Éducation entend mettre en place. Plus question de politique dans les amphis, les professeurs seront tenus de parler uniquement de leur sujet. Reste à voir et surtout à entendre.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo de la fin de semaine?
Eh bien, c'est la photo de l'écrivain de gauche David Grossman. Il a reçu le prix prestigieux Man Booker pour son ouvrage « Un cheval entre dans un bar ».
Oui, un prix littéraire britannique pour ce livre publié en France aux éditions du Seuil. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une réalisation de François Porcheron que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Retrouvez-nous également sur notre page Orient Hebdo sur Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.